les gens qu'on aime, les fêtes vont être différentes cette année. On évite les rassemblements et on fête chacun chez soi. Je sais pas pour toi, mais moi, avec mon temps libre, je pense me lancer en musique.
François Bellefeuille chante « Le temps des fêtes » avec son masque.
Pour de rencontres familiales, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. On sera en visioconférence, fa-la-la-la-la.
Tu vois, il y a quelqu'un qui pue de la bouche en studio?
Ben non, je nous ferai pas ça. On garde la morale.
Un message du gouvernement du Québec.
Bienvenue sur En profondeur sur CKUT 90.3 FM, CKUT.ca. Aujourd'hui, vous allez entendre une entrevue que j'ai réalisée avec Louis-Carl Picard-Sioui sur Quoi va-t-on, Salon du livre des Premières Nations, dont Louis-Carl est le directeur. Et vous entendrez aussi, en second lieu, une entrevue avec Pierre-Auras Tremblay, qui lui-même fera une présentation lors de ce Salon du livre, qui présentait son livre « To Shall Forget » lors de sa parution. Pour le Salon du livre des Premières Nations, Quoi va-t-on, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook et vous aurez toute l'information. Quoi, Louis-Carl Picard-Sioui? Quoi? Est-ce que tu pourrais te présenter?
Louis-Carl Picard-Sioui, directeur de Quoi va-t-on et incidemment du Salon du livre des Premières Nations, qui demeure, disons, la principale activité de Quoi va-t-on.
Est-ce que tu peux nous dire les origines de Quoi va-t-on?
Quoi va-t-on, c'est un tout petit OBNL basé à Wendake, près de Québec. En fait, on s'est incorporé en 2015 pour se donner les moyens, en fait, de nos ambitions. Notre mission est entièrement basée sur le développement, la promotion et la diffusion de la littérature autochtone. On prenait le relais, en quelque sorte, de la librairie Anénorak, qui a organisé les deux premières éditions du Salon du livre des Premières Nations en 2011-2012. En 2013, moi, je m'étais joint, disons, officiellement à l'équipe, là, en tant que directeur de la programmation puis coordonnateur, là, avec Jean Sioui à l'époque et Daniel Sioui, le copropriétaire de la librairie. Et, en 2014, on était tellement fatigués. On a sauté une année. On a réorganisé en 2014. 2013 avait été très éprouvant parce que l'événement commençait à prendre de l'envergure. Et on est revenu en 2015, on s'est incorporé en janvier 2015, en fait, sous le nom de Quoi va-t-on, qui signifie « nous écrivons », tout simplement, en langue Wendat. Comme je le disais, la mission, c'est vraiment le développement, la promotion et la diffusion des littératures autochtones au Québec. Et le Salon du livre demeure notre principale activité, mais aujourd'hui, grâce à différents partenariats, bien, on peut avoir un champ d'action plus vaste et aussi avoir des actions ciblées là, à l'année. Là.
D'habitude, ça se passe en présentiel pour utiliser le nouveau langage. Comment tu te sens avec organiser un salon complètement virtuel ou en ligne? J'aime mieux dire en ligne parce que virtuel, on dirait que ça n'existe pas. Mais salon complètement en ligne cette année?
Oui, bien, c'est une bonne question. C'est sûr que moi... je viens de l'événementiel, je viens de la scène, tu sais, avant tout un artiste, avant d'être un directeur d'OBNL. Et je dois avouer que j'étais pas très chaud à l'idée d'un événement virtuel ou d'un événement en ligne. Mais une chose demeure, c'est que nous, on est un acteur du milieu littéraire autochtone, je pense, important maintenant. On est le seul événement grand public annuel au Canada, tu sais, entièrement dédié à la littérature autochtone. Et on se devait d'être là, d'une part, pour les auteurs. Premièrement, pour les auteurs, parce que vous savez, les auteurs, là, les artistes en général, c'était extrêmement dur cette année au niveau financier, là, avec l'ensemble des salons et des événements du printemps qui ont été annulés, c'était un coup dur au niveau financier pour tous les auteurs, mais particulièrement ceux des Premières Nations en ce qui touche notre mission. Et donc, c'est important pour nous d'être là pour eux, de faire un événement et d'être capable de les rémunérer. Et d'autre part, pour le public aussi, parce qu'il y a une demande au niveau du public. Quand on a annoncé, fin septembre, je pense qu'on a annoncé sur la page Facebook du salon que le Salon du livre aurait lieu, mais qu'il serait en ligne, etc. les réponses positives des gens. Les gens avaient peur que ce soit annulé. C'est devenu un rendez-vous annuel pour beaucoup, beaucoup de gens. Oui, dans la grande région de Québec, mais aussi des gens partout au Québec qui descendent cette fin de semaine-là pour vivre le salon avec nous. Et il n'était pas question de laisser tomber notre public non plus. T'sais. Donc, face à ce constat-là, ben, nous, on a décidé d'aller de l'avant de façon exceptionnelle sur le web. Et en même temps, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire de différent sur le web, t'sais, en fait, parce que oui, on a repris la majorité de nos activités qu'on fait d'habitude en présentiel. On les a adaptées sur le web, mais on a essayé d'aller plus loin en se disant comment on les adapte, puis qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau aussi sur le web, t'sais. Bon, par exemple, on a une série de textes inédits qu'on a fait des commandes à des auteurs, donc 5 auteurs, différentes générations, différentes nations autochtones aussi, différents styles, 5 auteurs qui nous ont fait un texte inédit sous la thématique de survivre au temps. Je pense qu'il est plus que jamais pertinent, hein, ne serait-ce que, oui, survivre à la pandémie, mais survivre au changement climatique, survivre... Chaque auteur l'a repris à sa façon, ce concept-là de survivre au temps, là, qui donne des textes très différents. Je suis vraiment très, très satisfait du travail qui a été fait à ce niveau-là. Et donc, bon, d'habitude, dans un salon, évidemment, on ne propose pas des textes originaux, tu sais, des papiers qu'on donne aux gens. Mais là, sur le web, ben, c'était facile juste de proposer un texte nouveau à chaque jour, par exemple. La vidéolittérature aussi, c'était une porte ouverte pour offrir un programme de vidéolittérature. On aura l'activité « Ça parle aux images ». Le samedi prochain, le 28, là, ça sera diffusé à compter de 15h, pas 15h, pardon, 17h. Ça parle aux images, qui est un programme riche, diversifié de vidéos littérature, ce qu'on n'aurait pas fait en présentiel. Donc,
Qu'est-ce que tu veux dire par vidéo littérature?
Ben, c'est des œuvres de vidéo littérature. C'est l'équivalent à la littérature de ce que le vidéoclip est. À la musique, je dirais. Ouais. Donc, ce sont des œuvres à la fois visuelles et littéraires. Des courts-métrages. On propose quand même une bonne émission, une bonne série. Là, on parle, c'est quand même une série, ça dure 45 minutes, l'activité au complet. Donc, un coup de film de 3 à 6 minutes, là, ça en fait quand même plusieurs. Là. Et des artistes très, très diversifiés aussi, des genres diversifiés. Là, c'est-à-dire, on a autant des trucs... filmé très artisanal là, à webcam que des courts-métrages d'animation d'une très, très haute qualité. Tu sais, on a toutes sortes de choses là-dedans. Et bon, j'en prendrai pas le crédit. Là. C'est le travail de Jonathan Lamy qui était commissaire pour... c'est lui qui a fait la cueillette, si on veut, là, qui a choisi les œuvres qui seraient diffusées lors de cette activité-là. Là. Mais je suis resté agréablement surpris quand j'ai eu la vidéo finale. J'ai dit « Wow, quel beau programme de vidéo littérature! » on a pu explorer d'autres médias. Tu sais, d'autres médiums, ça, c'est important. Tu sais, normalement, quand on est dans le présentiel, ben, ça le sait, tu sais, soit table ronde, entrevue, ou lecture, spectacle. Oui, quelques activités jeunesse, normalement, et de ce type d'activité-là, mais là, en tombant sur le web, on peut faire des entrevues en direct, comme on ferait, tu sais, via Facebook Live, mais on a décidé d'explorer l'audio aussi. Donc, on a 2 séries de podcasts qui seront disponibles cette semaine, un épisode par semaine qui sortira, une série de balados littéraires, qui, eux, remplacent un peu nos entrevues, nos tables rondes thématiques qu'on a à chaque année. Donc, au lieu de le faire sous format table ronde, on le fait sous format balado. Donc, c'est des entrevues préenregistrées avec un narrateur qui enquête sur une thématique, que ce soit le corps, la transmission, la bispiritualité, le féminisme autochtone, l'imaginaire. Ce sont nos 5 thématiques pour les balados du salon. Et on a aussi une série de balados de 4 épisodes qui s'appelle « Lire en relation ». Celles-là sont produites par des chercheurs, ou plutôt des chercheuses, ce sont toutes des femmes, des chercheuses en littérature autochtone, qui viennent un peu remplacer nos tables rondes académiques qu'on a normalement, où elles nous présentent leurs recherches, elles vulgarisent leurs sujets de recherche. À quelque part entre le TED Talk puis le ma thèse en 180 secondes, là, je vous dirais que c'est un peu le format qu'on a privilégié pour ces balados-là. Donc ça fait quand même un topo de trucs qu'on n'aurait pas fait normalement, tu sais. Le pestac bintard aussi, tu sais, on s'est posé la question comment qu'on... Souvent, après chacune des journées du salon, ben les artisans du salon, avec les auteurs, avec des éditeurs, avec des bénévoles, avec des membres du public, les gens vont manger un morceau, tu sais, après les spectacles, ou vont prendre un verre au bar, puis... Il y avait le volet humain, je trouvais, qui manquait un peu peut-être à une édition en ligne. Puis moi, j'ai toujours été un partisan de l'échelle humaine. Tu sais. J'aime les rencontres humaines entre les différents acteurs en présence. Et bien, la pandémie étant ce qu'elle est, on ne pouvait pas vraiment reproduire ça à 100%. Mais je me suis dit, bien, on va faire un show de fin de soirée. On va faire un pestac ben tard où on se prend pas au sérieux, qui va être co-animé par André Lévesque-Sioui et moi-même, et dans lequel on va avoir des discussions sur ce qui s'est passé dans la journée, ce qui s'en vient le lendemain pour le salon, où on répond aux questions du public, où on a des concours aussi pour gagner certains trucs. Le public peut échanger avec les questions. Et on va avoir des invités surprises aussi, des auteurs et des artisans du salon, qui ne sont pas annoncés à l'avance, qui vont se joindre. Donc, il faut y être. C'est à 9h tous les soirs, à compter de demain. On commence même demain. On fait un pestac ben tard spécial pour parler en général de la programmation puis un peu échanger avec les gens.
C'est un peu pour ça qu'il y a une personne qui a dit « Non, ça commence mardi, pas mercredi. »
Ouais. Ben, en fait, c'est qu'au début, le salon devait commencer le mardi. Bon, ben pour toutes sortes de raisons, là, on s'est dit « Bon, c'est peut-être trop ambitieux, là, on va essayer de concentrer plus. » Au début, on ne voulait pas concentrer en 3 jours. Vous savez, le salon a toujours lieu depuis plusieurs années. Le salon a lieu 3 jours, 3 soirs. C'est-à-dire on commence ça le jeudi soir, puis on finit le dimanche à 4-5 heures. Cette année, ben, on voulait... Puis souvent, le salon est un peu... est très chargé en activité. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose, une table ronde, ou, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de temps mort. Quand on arrive dans le web, là, c'est différent. Parce que d'une part, les gens, c'est pas vrai là, que les gens vont se loguer à 9h le matin puis vont rester jusqu'à 10h le soir sur leur ordi pour le salon. Déjà que les gens travaillent sur les ordis, sont en réunion virtuelle pour le travail, etc. Ils se divertissent là-dessus. On voulait donner un peu plus d'espace avec des breaks là, pour que les gens fassent d'autres choses. Et en même temps, pour limiter les problèmes techniques. Hein? C'est-à-dire que, oui, tu as une entrevue en direct qui est cédulée à 11h, mais s'il y a un bug technique et elle commence à 11h10, ben écoute, on peut vivre avec. T'sais. Mais si tu as une autre activité qui doit être à midi, ben là, on ne peut plus vivre avec. Là, t'sais. Et ça, je vous dirais, c'est en discutant avec des collaborateurs de d'autres événements aussi qui ont eu ce genre de problématiques-là qu'on s'est adapté. Puis on s'est dit, ouais, on va donner de l'espace, mais en même temps, ben là, on ne voulait pas donner trop d'espace pour que les gens se perdent aussi. Donc, c'est un compromis qu'on a fait du mercredi au dimanche. Puis le mardi soir, c'est plus pour réchauffer, je trouve, peut-être, le public. Hein? Pour se pratiquer, pour André puis moi, on va se pratiquer, animer un show de fin de soirée, parce qu'on a fait tous les deux de la radio, là, ça fait partie de notre CV, mais en même temps, on est peut-être rouillé un peu. Puis on s'est dit, on va s'amuser, on fait un test le mardi soir. Puis les gens qui sont là, ils seront avec nous, puis on va avoir du plaisir. On a des cadeaux, puis on a, tu sais, bien des trucs à parler. Puis après, ben on chaque jour, ben on va avoir des surprises, comme je vous disais. On va avoir un trickster qui va être avec nous tous les jours pour nous donner un peu sa vision artistique de ce qu'il a vu dans la journée, analyser ça. Un peu comme un commentateur sportif. Donc, mais oui, ça commence demain soir, disons-le. Là, ça commence demain soir, mais on ne l'a pas publicisé comme ça parce que...
Il n'est pas dans la programmation en tant que telle. Hein?
c'est pas nous la vedette, tu comprends? T'sais, nous, on est là, on est cheerleaders, là, tu sais, André et moi, on est là comme cheerleaders. Quoi qu'André, c'est une vedette, là, on s'entend que...
Mais toi aussi, t'es une vedette, mais bon.
Ben, ouais, ben là, moi, j'ai mon chapeau de directeur de quoi, attends?
Quand on a eu ces livres qui sont publiés en Allemagne, c'est parce qu'on est une vedette.
Bon, écoute, moi, je le fais pas pour ça, Christian, tu
sais. Ouais, ouais, non, je sens bien, mais juste dire que t'es quand même, t'as un rayonnement assez grand, quand même.
Ben, écoute, s'il y a des gens qui aiment ce que je fais, tant mieux, tu sais, on le fait.
Il y a beaucoup de gens qui aiment ce que tu fais.
Puis, mais dans le fond, demain, mardi soir et le reste des soirs, tu sais, je suis pas là en tant que, qu'auteur. Je suis là en tant que directeur de Quoyaton, puis plus précisément directeur du salon, mais dans un contexte à bonne franquette. Tu comprends? On n'est pas là pour se stresser, là. C'est pas un show. On n'est pas ces grosses ondes, là, pour, tu sais, on est vraiment en fin de soirée et ça va se sentir. On est relax, on discute à cœur ouvert avec le public, entre nous, avec des invités. Donc, on est là pour avoir du plaisir puis échanger ensemble. Alors, si le public, tu sais, si votre public est présent, ça serait fort apprécié. Échanger, tu sais, le chat est là pour ça. On va discuter ensemble via le chat puis on risque d'avoir du plaisir. En même temps, ben si on... C'est un test cette année, tu sais, dans le sens qu'on se retrouve hors de notre zone de confort. Comme tu le sais, tu sais, bon, moi, je m'amuse en tant qu'auteur. Cette année, en 2020, j'ai découvert le plaisir de faire des lives là, sur les médias sociaux pour briser l'isolement, surtout ce printemps. Là, tu sais, j'avais fait une série de 11 soirs consécutifs, des lectures différentes, là, parce que j'avais besoin du contact avec le public, tu sais, avec tous les salons du livre qui ont été annulés le printemps dernier. J'avais besoin de ce contact-là, tu sais. Et en même temps, je me suis approprié un peu les outils web. Je suis loin d'être un expert, là, vraiment, vraiment pas. Mais au moins, bon, je me débrouille assez pour dire, OK, on se fait des petits lives de fin de soirée, puis on a du fun avec le public dans le cadre du salon. Puis on verra où ce que ça nous mène, tu sais. C'est sûr qu'on espère bien être de retour en physique l'an prochain pour notre 10e anniversaire, mais on n'a pas de contrôle là-dessus. Alors, quand on n'a pas de contrôle dans la vie, ben il faut danser. Alors, présentement, c'est ce qu'on fait cette année. On danse, on fait du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a, puis on espère que le public appréciera ce qu'on a à leur offrir.
Oui, à travers les 9 premières années, parce que là, on est à la 9e, tu disais qu'il y aurait la 10e l'année prochaine, on le souhaite que ça soit physique. Comment t'as vu évoluer les littératures autochtones à travers tout ça?
C'est assez magique, je te dirais. Moi, c'est en tant que directeur de Quoyatonk, et même ça commençait avant ça, tu sais, en tant qu'auteur, moi, je me rappelle quand j'ai publié Yawindara et la forêt des têtes coupées en 2005. Et à l'époque, il n'y avait pratiquement aucune littérature autochtone en librairie. Là. Je veux dire, il y avait beaucoup de littérature québécoise à saveur autochtone, mais de la littérature autochtone, il n'y en avait pratiquement pas. Bon, il y avait Jean Sioui, bien sûr, qui publiait. Bon, Rita Mistokocho, qui avait publié une dizaine d'années auparavant. Yolande Picard qui avait publié aussi. Bon, sinon, on retourne à Sinioui, puis à Capes, puis à Eleonore Sioui, tu sais, mettons, des années 80. Mais je veux dire, il n'y avait pratiquement rien sur le marché. Et à chaque année, on voit des nouveaux auteurs, on peut les célébrer. Et je pense que Quoyaton, en tout cas, du moins le Salon du livre des Premières Nations, a eu un rôle fondamental, tu sais, pour faire connaître la littérature autochtone, mais qui a aussi inspiré des auteurs à écrire, à se dévouer à leur art. Tu sais, j'ai vu tellement de beaux moments. Tu sais, la première fois que Joséphine s'est mise à lire de la poésie dans le cadre d'Aimé Tittard, tu sais, je l'ai entendu, je me suis dit, mon Dieu, c'est tellement merveilleux. Tu sais, cette femme qui a une force, une sagesse, un petit bout de femme, mais qui a, tu sais, je veux dire, qui a une force intérieure, là. Je veux dire, c'est une géante. Quand j'ai vu, par exemple, Naomi Fontaine, qui a lu la première fois un de ses textes qui a été publié plus tard dans Quispan, elle était venue au Salon du livre où c'était l'ancêtre, c'était le sentier de la lecture. En tout cas, je ne suis pas sûr entre les deux, mais elle était venue à Wendake lors d'un concours qu'on faisait, puis elle avait lu ce texte-là. Moi, j'étais tombé en amour avec son écriture. Elle avait gagné le premier prix, d'ailleurs. Donc, on a vu ces autrices-là, ces auteurs-là se développer, apparaître. Et ensuite, il y a comme la diversification des voix qui devient magique. T'sais, quand Marie-André Gill a publié Béante, d'abord à compte d'auteur, elle l'avait présenté au Salon du livre des Premières Nations en 2011. Béante n'était pas sortie, c'était une version à compte d'auteur qu'elle avait fait imprimer elle-même avant que la peuplade reprenne le livre. Puis tout le monde tombait sur le derrière en entendant la poésie de Marie-André Gill. C'était un grand moment. Puis ensuite, toute la diversification, tu sais, quand on tombe avec J.D. Kirkness, par exemple, qui a exploré le polar et ensuite l'anticipation avec Aquarium, là où on sort un peu des schèmes plus classiques, plus traditionnels, la littérature autochtone, qui était avant davantage axée sur soit le territoire ou le lien, évidemment, aux ancêtres ou le lien aux colonisateurs. Mais là, il y a des nouvelles trames qui apparaissent, il y a des nouvelles thématiques qui apparaissent, une diversification. Et ça, bien évidemment, le public embarque parce que ça se peut que toi, tel auteur, ne te touche pas pour telle raison, tu sais, mais ou telle thématique te plaît moins. Mais maintenant, littérature autochtone, il y a de tout, tu sais, il y a vraiment de tout. Et ça, c'est une grande richesse, tu sais. Moi, je l'ai vu évoluer d'année en année, chaque année. On a des nouveaux auteurs qui se joignent, tu sais. Bon, 2020 est un peu plus problématique pour l'édition à cause de tout ce qu'on a vécu. Puis bon, les presses ont été fermées un bout de temps, etc. Mais on constate quand même qu'on a des nouveaux auteurs, des nouvelles gens qui ont publié des livres. Je pense à Émilie Monnet, une artiste de théâtre incroyable, une artiste anishinabé, qui a publié... Okinum, aux Herbes Rouges cet automne, donc son premier livre, qui est lié à sa pièce de théâtre, évidemment, là, qui est paru cette année. Je pense à Jocelyn Sioui, qui vient juste de faire paraître Mon oncle Jules aux éditions Aninorak, qui est un très grand livre, avec, une importance personnelle pour Jocelyn. C'est sa découverte personnelle de son grand-oncle, mais il s'en dit beaucoup sur l'histoire autochtone du 20e siècle au Québec, au Canada, tu sais. Un personnage plus grand que nature, Jules Sioui, que malheureusement, bien peu de gens connaissent au Québec. Je pense à Shane Michael, un jeune Malécite originaire du Madawaska, au Nouveau-Brunswick, qui vient de faire paraître son premier recueil de poésie, « Fif et sauvage ». C'est le titre du livre publié chez Personnages à Moncton. Ça, c'est des belles réussites. C'est des nouveaux auteurs qui arrivent avec des voix originales, différentes, et qui viennent bonifier, dans le fond, ce qu'il y a sur le marché puis ce qu'il y a dans la dynamique littéraire des Premières Nations. Puis c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, Shane, son livre est publié, comme je disais, chez Personnages, mais ça, c'est un partenariat que Kwayatonk a développé avec Personnages. C'est eux qui nous ont approchés. Parce qu'il y avait des voix autochtones francophones au Nouveau-Brunswick qu'ils avaient identifiées, puis ils voulaient développer, professionnaliser ces jeunes-là qui s'intéressaient à la littérature, qui écrivaient déjà, mais qui n'avaient jamais publié, pour les amener à une première publication, tu sais, puis on l'espère, à une carrière littéraire.
Tu parlais d'histoire aussi, il y a aussi de plus en plus d'histoires des peuples autochtones, racontés par les autochtones, parce qu'on sait que l'histoire a été beaucoup racontée par les Blancs et par les autochtones, mais de plus en plus d'auteurs dans les sciences sociales, humaines, histoire, qui sont aussi dans l'histoire racontée par les autochtones eux-mêmes, elles-mêmes.
Oui, effectivement. Puis cette année, tu vois, on a quand même, cette édition aussi du Salon, on a pris soin d'aborder ça aussi. Pas spécifiquement en histoire, mais en sciences sociales, je dirais au sens large, mais aussi en histoire. Par exemple, Pierrot Rostremblay, qui est un éminent penseur Innu, originaire de Spit, dans le coin de Tadoussac, et qui a publié le livre, l'a publié en Angleterre, pour l'instant, disponible seulement en anglais, là, mais « You Shall Forget », qui est vraiment par rapport à l'histoire de sa propre communauté des Spit, et comment la guerre du saumon au début des années 80 a comme provoqué des changements sociaux plutôt négatifs là, dans la communauté. T'sais. Donc, il va nous entretenir. On a un live avec Pierrot là, lors de l'événement pour parler de ce livre-là. On a Yves Sioui-Durand qui vient tout juste de publier une anthologie de ses textes critiques et polémiques qu'il a écrit bon, depuis les 30 dernières années et plus. Donc, qui était disponible dans différentes revues scientifiques ou autres, mais que là, qui ont été regroupés dans un volume. Ça vient tout juste de sortir. Donc, ça aussi, c'est important, cette approche-là, parce que, contrairement à ce qu'on a déjà entendu dans les médias qui m'avaient fait sursauter, là, certains universitaires québécois qui disaient que il n'y avait pas de penseurs autochtones qu'ils étaient sur les bancs d'école. C'est faux, là. Je veux dire, il y en a des gens instruits chez les Premières Nations, il y en a depuis toujours. Et moi, je me permets de dire qu'au contraire, si on se fie juste dans ma petite communauté de Wendake, vous savez, on avait une école libérale là, primaire là, dès la fin du 18e siècle, dans les années 1700. Puis début 19e siècle, il y avait une école libérale ici où les gens prenaient oui, le Wendat, le français, l'anglais, les mathématiques, un paquet de... Alors que dans les écoles de rang au Québec, nos voisins, ils apprenaient à cultiver la terre, puis les femmes à s'occuper de la maison, puis à plier du linge, là. Donc, on est plus instruits depuis plus longtemps, en tout cas dans le cas des Wendat et de certaines communautés du Sud. Donc, si nos voix ne sont pas portées, c'est probablement plus parce que une question d'accès aux médias qui, à l'époque, c'était les journaux et le livre, tu sais, ou aujourd'hui, c'est d'autres choses, les médias, mais bon, il y a des raisons, mais il y a des penseurs, il y a des historiens, il y a des gens en sciences sociales chez les Premières Nations, et ça ne date pas d'hier, là, tu sais.
C'est clair.
Mais aujourd'hui, de plus en plus, ben on leur tend le micro. Et nous, à l'événement, ben c'est sûr que c'est important pour nous de tendre le micro. Dans le passé, on le fait quand il y a eu des livres historiques ou de sciences sociales rédigés ou co-rédigés par des gens des Premières Nations, ben ça nous fait plaisir de leur laisser la parole. On n'est pas obligé d'être d'accord, t'sais, en sciences sociales, c'est ça le principe, en histoire, hein, ce sont des débats. C'est pas une question d'approuver le contenu, mais une chose qui est fondamentale, c'est de leur donner la parole, leur donner la visibilité et laisser au soin aux gens d'en juger après de si ça leur convient ou pas, là, tu sais. Il faut laisser vivre la parole, il faut rendre la parole accessible à tous ceux qui veulent l'entendre. Et s'il y a un côté positif au salon virtuel, c'est justement d'être capable de rejoindre plus de gens dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, bien sûr, parce que tu peux écouter les lives ou tu peux réécouter les différentes activités, peu importe où ce que tu es sur notre petite planète bleue. Et dans le temps, parce que contrairement à l'événementiel normal où ben il faut que tu sois là, hein, parce que sinon tu passes tout droit, eh bien, la majorité des activités pourront être réécoutées par la suite. Ça va demeurer sur le web. Une fois cela dit, j'invite fortement les gens à être là pour la première diffusion.
Parce que c'est pas la même chose.
Ben c'est plus agréable parce que plusieurs des auteurs, tu sais, seront quand même.
Il y a beaucoup de possibilités d'interaction aussi.
Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est toujours moins le fun de réécouter après puis de commenter. Là, tu sais plus trop ce que tu commandes. Puis tu sais, t'as pas. C'est le fun de sentir qu'on est ensemble malgré la distance.
Ouais.
Donc, je propose aux gens, s'ils peuvent être là en direct, c'est encore mieux. Mais sinon, ben les activités pourront être réécoutées aussi. C'est d'ailleurs une question qu'on a eue sur le web beaucoup, parce que on a des gens de l'Europe francophone, beaucoup qui écrivent. Tu sais, vas-tu pouvoir réécouter? Je dis, ben oui, mais c'est plus le fun. Ils disent, oh, je veux bien croire que c'est plus le fun, mais... Il va peut-être être 3 heures du matin chez nous. Je dis, OK. Réécoute-le alors. Merci, Christian.
Ben ouais. Vous entendiez Louis-Carl Picard, si oui, vous parlez de Kwawatonk, Salon du livre des Premières Nations, qui aura lieu du 25 au 29 novembre. En réalité, du 24 au 29, si vous avez bien entendu l'entrevue avec Louis-Carl. Vous pouvez retrouver l'information de Kwawatonk, Salon du livre des Premières Nations, sur la page Facebook. Vous êtes toujours en profondeur sur CKUT.ca 90.3 FM. Maintenant, nous sommes avec Pierre-Auras Tremblay. Tu es avec nous aujourd'hui pour parler principalement de ton livre « To Shall Forget, Indigenous Sovereignty Resistance and the Production of Cultural Oblivion in Canada ». Mais on va parler aussi des autres dimensions de ton travail. Tu peux nous parler de toi, en fait, de ton travail. Comment tu résumerais ton cheminement intellectuel de chercheur?
Oui, comme chercheur, ben, Kwekwe, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être à ton émission, Christian. Et puis, merci pour ta question. C'est une bonne réflexion sur qu'est-ce qui nous amène à creuser. Comme chercheur, à un moment donné, on fait face à nos propres équations intérieures. Et puis, c'est un peu le cheminement du chercheur, notre propre expérience de vie qui en vient éclairer un petit peu ce à quoi on s'intéresse. Mais qui comporte un regard, je dirais, sur sa propre communauté, sa propre condition. Alors, ça nous amène sur des chemins, des fois, qu'on n'attendait pas ou inédits, si je peux dire, et puis c'est un peu le processus. Mais aujourd'hui, je suis professeur à l'Université d'Ottawa, un institut de recherche et d'études autochtones. Et « You Shall Forget ben, » est le résultat là, d'une dizaine d'années de travail. Et en fait, ça avait commencé avec mon travail doctoral qui avait commencé un petit peu avant 2005, 2006. Mais après ça, j'ai commencé 2007 plus officiellement à l'Université d'Essex jusqu'à 2012 quand j'ai publié. Puis après ça, avant de digérer toute l'expérience, ce qui était vécu dans le processus d'investigation de l'oubli culturel au fond de l'effacement, entre autres, d'un événement majeur. Alors, toute cette réflexion sur la relation que la communauté a avec elle-même, ça a pris du temps à digérer et tout le livre a pris un petit peu plus de temps à naître et puis transformer la thèse en livre, au fond. Moi, je suis des Sipites, Sipionou, Innu de la rivière au coquillage, qui est près de Tadoussac, situé un peu enclavé par les Eskoumens, mais le territoire du Grand Nitassinan, le territoire traditionnel Innu, là, c'est de là que je viens, mais maintenant, je suis à Ottawa. En exil épistémique, si on peut dire, pour mieux réfléchir, les dimensions du colonialisme. Et pour résumer, la recherche a été vraiment une forme de résistance et puis un processus de décolonisation personnelle. Comme je dis, des fois, j'ai été trempé dans la colonialité, imbibé de colonialité. C'est un peu la condition d'être autochtone aujourd'hui. Et comme ça l'était il y a 40 ans aussi. Et puis c'est ce processus-là d'approfondissement, de reconnexion, de guérison, et puis de reconnexion, au fond, avec la Terre, avec ses lois, avec toute la philosophie ancestrale aussi. Ça peut prendre beaucoup de temps. Certains y arrivent, certains n'y arrivent pas. L'important, c'est de continuer à résister et puis à poursuivre cette vision.
Tu nous parlais des Sipites d'où tu viens.
Oui.
Est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire des Sipites à travers la colonisation? Particulièrement, entre autres, l'histoire du Canada. Tu es le ventre de la bête, comme tu disais, tu es à Ottawa. À partir de l'article 91-24, en quoi est-ce que les articles de loi, l'histoire du colonialisme canadien a affecté les Sipites en particulier?
Oui, bien, je me tiens loin un peu de l'histoire, dans le sens que je me définis pas comme historien. J'utilise les données disponibles pour essayer de comprendre, situer, comprendre les circonstances qui nous ont amenés jusqu'à aujourd'hui, notre condition actuelle, tu sais, qui est le produit de tellement d'années. Et puis, ce que tu mentionnes, la Constitution de 1867, c'était une accélération. C'est des mécanismes qui ont été mis en place vraiment pour éradiquer, déterritorialiser, faire en sorte que les gens vont être arrachés à la terre d'un côté et ensuite vont être vidés de leur substance, vidés de leur savoir, de leur conscience historique, si on peut dire, hein, pour finalement éradiquer ou produire ce génocide, cet effacement majeur. Alors, le cas des Sipites est un cas parmi tant d'autres au Canada. Pour moi, il est devenu extrêmement intéressant. Oui, d'un côté, c'est ma communauté. Alors, j'ai fait un devoir là, de creuser, aller le plus profondément possible. Mais à travers ça, se révèle une autre histoire, un autre récit de l'île de la Grande Tortue, un autre récit de l'Amérique qui m'est apparu très important de comprendre. D'abord, avant de cette terre, là, hein, cette terre-là qui est très riche, qui est très belle, le Grand Nitassinan, l'embouchure de la rivière Saguenay, le grand fleuve, est un lieu de rencontre depuis très longtemps. Alors, même avant Champlain, avant Cartier, les premiers peuples se sont toujours rencontrés, ont eu des relations diplomatiques, on voyageait partout. Alors, c'est cette grandeur-là là, de l'Amérique qui était en particulier effacée par la colonisation. Et puis, pour moi, c'est important de rétablir un peu la valeur de nos récits, hein, d'apporter notre perspective sur notre réalité. Alors, il faut rétablir, je pense, il faut qu'on fait le ménage un peu, rétablir cette conscience historique précoloniale. qui nous dit que l'Amérique était autre. Ce continent-là a été et est toujours habité par une très grande mémoire, des très grands récits, une philosophie profonde, une conception de la Terre, de l'être humain, de la souveraineté ancestrale, aussi de la responsabilité face à la Terre. Et puis, bon, dans ces démarches-là, j'ai remarché un peu les sentiers des premiers contacts, l'interprétation qu'en fait la société coloniale, le Champlain, Anadabijou, les premières rencontres. Mais quand on essaie de le voir à travers un autre regard, tu sais, je m'aperçois que c'est comme si le contact n'avait jamais vraiment eu lieu. Et puis, quand Anadabijou disait à Champlain, tu sais, si vous aimez cette terre-là, elle va vous nourrir, je m'aperçois qu'il y avait des enseignements tout au cours des siècles. Les premiers peuples ont tenté de faire comprendre aux colons ou aux nouveaux arrivants, dans ce cas-là, qui permettent de vivre, puis que les générations à venir puissent vivre aussi. Moi, c'est important, là, toute cette idée un petit peu qu'on entend à travers l'hystérie griffoise, puis les discours, ce genre de romantisme par rapport au premier contact. Je pense que nous, on va porter un autre regard sur ça. C'est réeffacer. Quand, de mon point de vue, c'est que les premiers contacts, les hommes qui arrivaient étaient obsédés par les femmes autochtones et puis faisaient tout pour se les accaparer. Puis c'est devenu un objet de trafic. Alors, c'est un peu cette histoire-là des femmes qui permet de révéler toute l'architecture du colonialisme et de la domination en Amérique du Nord. Ça, c'est un élément. Ensuite, le transfert de ces territoires-là à la couronne britannique, les premiers peuples n'avaient jamais cédé ces terres-là. C'est inconcevable, comme nous, de céder un territoire, tu sais, céder ta responsabilité, ton obligation, ce qui est la source de ta vie, la source de ta survivance, hein. Et puis, c'est aussi ton lieu de sépulture. Alors, c'est tout pour nous, la terre, évidemment. C'est, là, ça fait peut-être un peu cliché de le redire, mais c'est fondamental. Et alors, là, on entre dans une confusion avec ce transfert-là des terres aux Britanniques après la conquête française. Mais pour nous, il n'y a jamais eu de cession, et puis il y a toujours une résistance continue. Et puis l'observation aussi des nouveaux arrivants depuis tellement longtemps, depuis 400 ans, fait en sorte que les premiers peuples en général, mais les Inuits en particulier, connaissent très très bien la société qui est assise sur eux et puis qui nous a enfermés finalement dans ses propres paradigmes et conceptions. Alors 1867, ben c'était le mouvement, le rouleau compresseur de réduction, là, où est-ce que on identifiait les sauvages ou les Indiens, comme les gens disaient à l'époque, et on leur donne un numéro, puis on fait en sorte qu'ils vont se retrouver sur une réserve, et puis que éventuellement cette réserve-là va être dissoute, et puis il n'y aura plus de monde. Alors c'était l'accélération. Ensuite, l'imposition d'un même mode de gouvernance. Alors il y a eu l'agent des Indiens, il y avait le curé, tout ça, et les compagnies qui se sont mis ensemble pour faire en sorte qu'il y allait avoir l'assimilation complète, et la structure du conseil de bande est devenue l'outil par lequel on allait finalement mener les Indiens vers leur propre anéantissement. Bon, ensuite, on connaît de mieux en mieux la suite des événements. D'autres stratagèmes, d'autres outils de génocide se sont instaurés, entre autres, là, avec les écoles résidentielles et puis toutes sortes de politiques d'éradication. Bon, mais à travers tout ça, il y a une résistance continue et une vision du monde qui n'a jamais été anéantie, une résistance qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Et puis, ces récits-là de résistance qui me semblent fondamentaux, au-delà de toute la tragédie et de toute l'oppression, et de comprendre que la condition dans laquelle on est aujourd'hui est une production et que ça a été voulu pour ne pas intérioriser notre condition, puis nos blessures, et puis de comprendre d'où est-ce que ça vient pour mieux retrouver une forme de réversibilité, retrouver la vision qui a toujours été là et qui va toujours l'être de mon point de vue. Ça, j'aime autant la chanson de Natacha Canapé-Fontaine qu'on entendait au début. Je trouve que c'est une très belle chanson parce que d'un côté, ça nous fait sentir notre tragédie, le vide et le malaise, mais aussi la force, la puissance et la continuité là, de nos voix.
La grandeur.
La grandeur, oui.
Tu parlais de souveraineté ancestrale, mais tu as plus effleuré. Est-ce que tu pourrais entrer plus en profondeur puis nous définir qu'est-ce que c'est selon toi?
Bon, on parle en français, donc on parle dans un langage colonial évidemment imposé. Alors, c'est toujours approximatif. Puis je veux pas me faire un représentant là, de la philosophie inou, de la politique inou, mais avec le temps, on en vient à voir un peu quel sens les gens de la Terre donnent à cette relation-là, puis cette obligation-là. Alors, ben d'abord, la relation des premiers peuples, disons, on parle du monde inou, des Essipionautes, des vieux avec la Terre. Je dirais que c'est assez difficile à comprendre pour les gens qui vivent en milieu urbain. Je dis pas que c'est impossible à comprendre, mais de dire que je vais dans un lieu où ça fait 10 générations qu'on va au même endroit, ça devient une relation très profonde. On est nourri par cette terre. C'est le lieu où est-ce qu'on est, c'est le lieu où est-ce qu'on meurt. C'est comme une relation de passion profonde, un amour tellement profond qui fait qu'une fois qu'on en est arraché ou qu'on perd cette relation-là, il y a une forme d'anéantissement. Évidemment, souveraineté ancestrale, pour moi, c'est comme souveraineté comme forme de responsabilité, de protéger ce qui nous a été transmis pour les générations qui viennent. Puis cette obligation-là est très grande. Mais pour ça, il faut avoir été connecté avec cette terre-là, il faut la connaître, et puis pour pouvoir l'aimer et puis la défendre. Alors, c'est pour ça que le concept de souveraineté ancestrale est difficilement traduisible dans le cadre épistémologique ou la vision du monde étatique dans lequel on vit. T'sais. Ou est-ce que la vision du monde qui est derrière ce concept de souveraineté Innu Tipentemo, dans le cas des Innu, cette obligation de protection, de gardiennage, de faire les choses pour les générations qui viennent, un aspect intergénérationnel, et aussi pour pouvoir continuer à se nourrir puis à vivre, bien, ça peut paraître un peu hors contexte dans le monde où est-ce qu'on vit, t'sais. Mais ça reste prépondérant, ça reste très, très important. Alors, je dirais que pour bien comprendre le concept, il faut avoir vécu en territoire, il faut avoir passé du temps en forêt. C'est une vision du monde aussi, une conscience qu'on fait partie de cette terre-là, de ce territoire-là. Ça peut avoir rapport avec la planète aussi, l'obligation des êtres humains envers la planète. Et puis envers l'eau, entre autres, envers les forêts, envers toutes les espèces. Pour moi, c'est comme ça que je le conçois maintenant, dans un sens global. Autant que ça peut être vrai d'une personne, tu sais, dans son contexte, sur son territoire, les gardiens de territoire, les familles, tu sais, où est-ce qu'on un territoire on dit transmis pour le protège, mais ça peut aussi être vu comme la responsabilité de l'humain face à la planète, tu sais, et puis à toute la vie, là, tu sais.
Ouais, ce sens-là, elle nourrit énormément la résistance autochtone aujourd'hui. Elle peut aussi influencer d'autres gens. C'est quand même quelque chose qui est revenu aussi dans certains de tes textes, la vision environnementale et révolutionnaire qui est derrière tout ça.
Ben oui, ben oui. Juste de se dire autochtone aujourd'hui, puis de porter cette vision-là, ben c'est sûr qu'on se retrouve en résistance face à tout ce qui vise à l'anéantir depuis si longtemps, tu sais. Et puis c'est une lutte, pas juste une source de financement ou des avantages. Dire autochtone, on voit avec les mouvements d'auto-autonomisation qu'on voit, tu sais, quand ça vient d'une conscience profonde de porter cette lutte-là, c'est pas évident. Puis ceux sur le terrain qui décident de résister, puis de protéger le territoire, puis de protéger les êtres humains aussi, c'est ça, là. C'est prendre soin de soi-même, prendre soin de sa famille, prendre soin de la dignité humaine. C'est pas toujours compatible avec le monde dans lequel on vit et la vision de la civilisation. Surtout cette idée de domination de la nature, là, qui est très profond, là, dans le monde où est-ce qu'on vit, qu'on critique ça dans le fond, là, et l'idée que tout ce qu'on sacrifie ou qu'on extrait ou qu'on prélève du monde vivant, ben, on a une responsabilité de le distribuer ou de le partager aussi face à ceux qui ont les plus grands besoins. Alors, c'est toute une philosophie, une vision du monde qui, comme disait Johnny McDonald, c'est pas vraiment conciliable avec la civilisation puis le progrès. Puis 150 ans plus tard, on peut dire que non, ce l'est pas vraiment. Mais l'histoire nous donne raison, par exemple. L'histoire nous dit on peut plus continuer à se comporter, à être au monde de cette façon-là, de cette façon dominante et, il faut dire, masculiniste, souvent misogyne. Ce mélange-là, cette domination masculine aussi, ce déséquilibre-là, il me semble très important à mentionner aussi, là, la condition des femmes en général, là, des premiers peuples en particulier, parce que c'est une double oppression, là. C'est lié, cette domination de la terre et domination des femmes. C'est devenu profond dans nos sociétés aussi. Pour moi, c'est un front important, une lutte cruciale qui vient ensemble. C'est défense de la terre, de la vie et défense aussi des femmes. Faire en sorte que aussi, parce que ça fait partie de la solution. Et la révolution passe par ces nouveaux espaces où les femmes peuvent se rencontrer, peuvent exprimer leur récit aussi, pour qu'on puisse tous se guérir. Ces voix qui ont été effacées, qu'ils sont toujours. Et puis, le Boys Club, là.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec le Boys Club, selon toi, hein? Comme question en aparté, mais bon, c'est quand même une question cruciale parce que la violence faite aux femmes est généralement commise par les hommes. Donc, le problème des femmes est notre problème à nous.
Oui.
Dans le sens où c'est nous qui, généralement, les causons en tant qu'hommes. Alors, qu'est-ce que tu vois, toi, qu'on peut faire pour faire face à ça?
Ben déjà, d'être réflexif, d'apprendre à se taire, d'écouter, de laisser l'espace, faire un pas en arrière, laisser les gens s'exprimer, arrêter d'interrompre, de mettre sous silence. T'sais. Comme homme, on a tous un héritage, un lourd héritage de colonialité, un lourd héritage de misogynie, de le reconnaître et puis de dire, bon, comment à partir de là, on peut changer, on peut se décoloniser, on peut s'améliorer. C'est comme le racisme intériorisé, il y a différentes strates. Et puis de se regarder dans le miroir, finalement, très important, mais aussi d'être solidaire, puis d'écouter les récits des femmes. Puis pour moi, c'est là que le travail de recherche est important pour ouvrir des espaces où on peut entendre ces voix-là qui sont interrompues et gardées sous silence. et des espaces de vraie liberté, et puis où est-ce qu'il y a une sécurité, où est-ce qu'il n'y a pas de violence épistémique, où est-ce que les gens peuvent aller au bout de leur pensée. Parce que ces récits-là, bon, ça interpelle. Ça interpelle tous les hommes en particulier, à différents niveaux, mais d'être dans le cercle et puis d'être prêt à écouter, puis de porter l'oreille. Puis c'est l'époque, hein, on est avec le MeToo, avec ce qui se passe présentement, la dénonciation de la pédophilie dans les milieux littéraires et tout ça. Il y a tout un grand ménage qui est en train d'être fait, puis je pense que ça va faire un immense bien là, de libérer ces paroles. Ces paroles d'oppression, de domination, là. Abus de pouvoir, au fond. Parce que le colonialisme, c'est un grand abus de pouvoir. Un grand abus de pouvoir. Pour moi, c'est la meilleure métaphore. Ça, je fais le lien entre le colonialisme au Canada, les politiques de l'État canadien, de la couronne, et de la couronne québécoise aussi, face au premier peuple, versus la relation d'abus. Et puis, c'est vraiment une relation d'abus, mais sur 150 ans et plus. Et puis, je pense que c'est comme ça qu'on doit le regarder pour mieux comprendre. Tout le temps imposer comme ça, imposer les désirs, imposer les besoins d'une société dominante sur une minorité, sur des peuples vulnérables, et avec le temps, essayer de légitimer cette domination-là, et d'en venir à nous faire croire qu'on a consenti à la condition dans laquelle on est, et en plus qu'on le mérite. Et puis, je pense que là, c'est pour ça que je fais le lien entre ces phénomènes-là, qui nous touchent comme société, mais comme civilisation aussi.
Alors, nous allons continuer avec notre invité d'aujourd'hui, Pierre-Auras Tremblay, qui a publié, comme je vous le rappelle, « To Shall Forget Indigenous Sovereignty Resistance and the Production of Cultural Oblivion in Canada », qui commence à être plus distribué. Comment ça en va avec la distribution?
Ah, ça va. C'est les presses de l'Université de Chicago, ils vont à leur rythme et puis ils vont avoir une large diffusion, là.
OK, donc les gens pourront y avoir accès rapidement et aller demander à leur bibliothécaire aussi préféré de les commander.
Oui.
Alors, donc, on va entrer plus spécifiquement sur le livre maintenant. Tu écris que c'était un livre d'une décennie. Ça t'a pris une décennie pour faire les recherches et l'écrire.
Oui, faire les recherches et puis vivre aussi. Quand tu écris ou tu réfléchis sur ta propre communauté, c'est pas les mêmes processus que d'arriver, je sais pas moi, de Montréal ou de Paris, peu importe, puis d'arriver dans une communauté, puis après ça, tu repars, et puis c'est très différent. Puis les enjeux sont différents, la façon de faire aussi, puis quand ça te touche toi comme personne, ta famille, parce que nous, c'est une petite communauté, là, on est miniature, pas miniature, mais je dirais une très petite communauté qui, avec le temps, est devenue comme une seule famille. Alors, avec tous les enjeux qui viennent avec. Alors, c'est très particulier, là, comme contexte. Et puis, pour moi, c'est important de publier aussi pour les futurs chercheurs, surtout les jeunes chercheurs autochtones, mais pas seulement, pour partager l'expérience, ça peut les inspirer, puis donner des outils, des clés pour mieux faire la prochaine fois, parce que c'est toujours des limites à ce qu'on fait. Puis on apprend plus souvent de nos erreurs que de nos bons coups. Mais pour moi, le livre, sa grande valeur est dans les récits que j'ai faits avec les aînés, puis tous ceux qui ont participé à la guerre du saumon, là. Les gens ont été très généreux, puis je veux leur rendre hommage. C'est une façon d'honorer leur mémoire, ce qu'ils m'ont transmis, puis aussi leur héroïsme dans cette guerre de résistance, cette guerre du saumon, où est-ce qu'il y était une petit groupe face à la société, finalement, face à des groupes hostiles, face au gouvernement. Et puis les gens se sont tenus, se sont serrés les coudes, et puis ont réussi, d'une certaine façon, à bloquer, à résister, mais aussi ont été blessés, parce que ça fait partie de la condition des premiers peuples au Canada, que nos résistances sont violemment répressées d'une manière ou d'une autre, et que la seule façon de gagner, c'est de s'anéantir, c'est de renoncer. Alors, c'est tout un mécanisme, ce régime colonial, pour miner toute forme de résistance autochtone depuis 150 ans, faut le dire. En partant. Mais je me suis intéressé à la mémoire qu'on avait de cette résistance-là. Et je me questionnais sur pourquoi on n'en avait pas entendu plus parler, les gens de ma génération, là, à l'époque, quand j'avais 30 ans, et pourquoi on n'était pas trop au courant là, de cet événement qui avait été le plus marquant pour la vie de ceux de la génération précédente. Alors, je trouvais ça énigmatique. Énigmatique comme phénomène. Alors, j'ai décidé d'aller voir chez la génération précédente qu'est-ce que ça avait représenté pour eux, qu'est-ce qu'ils avaient vécu, qu'est-ce que ça représentait pour eux et qu'est-ce que le fait de se replonger dans cette mémoire de la guerre du saumon, comment ça éclairait le présent de notre communauté. Alors, je m'en souvenais de m'intéresser plus à la relation que la communauté avait avec le passé que le passé lui-même. Alors, c'est devenu un travail de plus de mnémo-histoire, je peux dire, mais basé sur l'histoire orale, sur les récits, les mémoires autobiographiques de 20 personnes qui ont participé, d'une dizaine d'autres personnes qui n'ont pas été interviewées, enregistrées, mais qui ont participé, et les gens de ma génération, mes cousins, ma famille, les gens que je connais chez nous, et moi-même, ma propre expérience. Alors, c'est tout ça là, qui est rassemblé dans le livre.
Tu écris de long en large sur la culture de l'oubli et sur la fabrication de la mémoire et de la fabrication aussi de l'oubli.
Oui.
Comment ça a façonné Et si Pete, qu'est-ce qu'il en est devenu aujourd'hui?
Qu'est-ce qu'il en est devenu aujourd'hui?
Ben, à la fois historiquement, puis au niveau du présent.
Historiquement, ben, si on commence à porter un regard sur nos trous de mémoire, sur l'oubli, je me suis intéressé aux discontinuités, comment on en est arrivé, par exemple, je prends le cas de la guerre du saumon, mais je remonte à beaucoup plus loin, comment on en est arrivé à ces ruptures de transmission culturelle, puis avec le temps, ce que j'appelle un genre d'anémie identitaire, de moins connaître, de moins être en contact avec le passé. C'est des phénomènes qui sont vécus par tout le monde, mais nous, je réussis là, pour des raisons historiques, de contexte. Ça fait 400 ans qu'on a des contacts, hein? Si on était un peu au front de ces contacts-là. Et puis, on a vécu peut-être des stades plus avancés de colonialisme et de colonialisme dans ses formes psychologiques, peut-être à cause de la proximité avec le Québec, puis la culture québécoise et tout ça. Une autre forme d'hégémonie culturelle avec la mémoire sélective québécoise qui, à un moment donné, en est venue à remplacer notre propre conscience et nous, rapport avec nos savoirs et nous, tout ça. Puis tout ça, là, fait que je me suis intéressé à ce rapport-là. Hein. Mais le but n'était pas d'étudier le Québec ou de critiquer le Québec, mais j'ai dû le faire pour essayer de trouver un espace, une distance par rapport au Québec, parce que le Québec prédominait beaucoup là, dans l'esprit et dans la communauté, ce qu'on appelle la culture québécoise, la mythologie là, coloniale, si je peux dire. Alors, le défi, c'est tout le temps de saisir le présent aussi. Là, on parle de quand? On parle-tu d'il y a 10 ans? On parle-tu d'il y a 20 ans? On parle-tu d'aujourd'hui? Là, si on parle du moment présent, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est où est-ce qu'on en est? Ben, c'est beaucoup, beaucoup de déterminants, ça. Des déterminants extérieurs, hein? On en a parlé, là, toutes les politiques génocidaires de la couronne canadienne, et puis les pensionnats, la mise en réserve, tout ça ensemble, d'un côté. De l'autre côté, l'imposition, là, dans le cas des CIPIT, la prédominance du Québec, et puis de ses politiques, son hégémonie culturelle, toutes les formes de racisme qui ont pu être vécues par les Innus. Ensuite, on parle des pensionnats, tu sais, la brisure, la cassure que ça a amené au niveau culturel. Je n'invente rien en disant ça, là, la transmission, mais nous, il faut vivre avec ces conséquences-là, puis essayer de les comprendre, qu'est-ce que ça représente pour les générations qui suivent, tu sais. Et ensuite, bon, toute la logique économique dans laquelle on vit, ben, ça fait en sorte que la conscience Innu, la langue Innu, dans le cas des Sipit, tout ça ensemble, ben, était marginalisé de plus en plus jusqu'à devenir comme éloigné, d'avoir une certaine distance par rapport à ce qu'on pourrait définir comme étant Innu, cette conception-là du monde. Alors, c'est cette dimension-là intérieure qui m'intéresse plus, parce que je pense que c'est là qu'on peut agir, puis c'est ça qu'il faut. On a une responsabilité comme chercheurs autochtones, c'est de regarder dans nos propres communautés. Et encore une fois, la question des femmes est centrale, parce que les femmes ont été utilisées pour favoriser l'assimilation. Est-ce que les femmes autochtones, souvent, devaient partir de la communauté, et les femmes non autochtones arrivaient dans la communauté, et puis tout ça a engendré beaucoup de ruptures de transmission culturelle. Et je dirais les aspects de misogynie, c'est-à-dire de la prédominance des hommes, que ce soit au niveau des structures de décision, décisionnelles, au niveau politique, fait en sorte qu'on va plus entendre un récit et puis on va moins entendre une autre. Ça crée un déséquilibre. Et ça finit qu'on entend juste la parole des hommes, et des hommes de pouvoir en particulier. Alors, ça, c'est des phénomènes qui sont vécus là, ben, chez nous, entre autres, là, mais ailleurs aussi. Alors, je trouvais ça pertinent d'en parler.
Tu nous parles dans ce livre-là aussi beaucoup de la tyrannie intérieure dans les CIPIT. Et aussi du lien à cette coupure avec l'histoire. Est-ce que tu peux nous en parler davantage?
Bon, d'abord, c'est ta géographie variable, hein? Tu sais, c'est pas tout le monde qui... Les Sipit, c'est pas une masse, là. Tu sais, c'est des personnes. Il y a plusieurs générations, il y a plusieurs genres, il y a différentes personnes. Il y a des gens qui vivent dans la communauté, il y a des gens qui vivent à l'extérieur. Maintenant, c'est près de 75% des membres qui sont non-résidents. Alors, tu sais, je reste assez complexe comme phénomène. Je veux pas réduire, hein, puis je veux pas représenter non plus, là. Je veux faire attention pour pas tomber dans des fausses représentations. Mais dans le livre, j'ai porté une attention particulière aux représentations des Sipit, justement, dans les médias, dans la recherche, et puis essayer de comprendre cette image qui a été construite d'un côté versus qu'est-ce qui était vécu à l'intérieur. Puis c'est pour ça que c'est les récits des aînés qui m'ont vraiment aidé le plus, parce qu'eux étaient très courageux, puis ils disaient les choses comme ils étaient. Et puis ils mentionnaient des phénomènes qu'on vivait à l'intérieur que moi je voyais pas nécessairement parce que j'étais trop jeune, peut-être pas assez expérimenté. Comme plusieurs de ma génération, j'avais pas entendu assez d'histoire de la communauté. Et puis avec le temps, ces choses se sont révélées. Et des formes de contrôle, des formes de colonialisme psychologique et de tyrannie intérieure, si on peut dire. Là. Mais c'était pas l'objet au départ, non, encore une fois. Mais un des déterminants de l'oubli était justement les rapports de pouvoir à l'intérieur de la communauté. Ça, c'était pour moi une découverte. tragique d'un côté, mais en même temps, qui me semble très importante pour pouvoir aller vers d'autres choses. Si on veut avoir une continuité culturelle, ben, il faut faire face à ces barrages intérieurs, à ce qui nous empêche de nous rappeler.
Tu nous parles aussi dans ce livre-là de la place envahissante des Euro-Québécois dans les structures même de pouvoir du Conseil de la bande des Cipit, mais aussi dans l'histoire, toute la violence qui a été aussi commise par les Euro-Québécois sur les Inuits par rapport à la guerre du saumon, et toute une histoire qui vient avec ça et qui ne remonte pas à hier ni à la guerre du saumon.
Ben oui.
Mais tu peux nous parler de cette présence?
Ben, c'est très pénible d'en parler, hein, parce que c'est des membres de notre famille, c'est très proche. La relation Cipit, c'est devenu, là, avec le Québec, avec le village des Escoumins, avec les alentours, parce qu'avec le temps, il y a eu beaucoup de mariages. Dans toutes les familles, soit c'est un parent, soit c'est un cousin, soit c'est un conjoint. Alors, c'est des relations de très grande proximité.
On parle de structure, puis de peuple en général. On nommera pas de nom aujourd'hui.
Non. J'essaie de pas de nommer de nom dans le livre, mais il y a certains dirigeants qui on peut pas s'empêcher d'identifier. C'est pas le but, là.
Peu importe ça.
On s'intéresse au phénomène, et puis ces gens-là sont pratiquement pas reconnaissables, à moins. Mais dans la communauté, des choses qui sont connues, là, communément connues. Mais cette relation-là avec le Québec, d'extrême grande proximité, a fait en sorte qu'à l'intérieur, à un moment donné, là, le rapport avec l'histoire, le rapport avec la vision du monde, la philosophie québécoise, en est venu à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Évidemment, dans nos familles, dans nos institutions aussi. Là. Puis jusqu'en arrivait une idée aujourd'hui qui est défendue par certains qu'il n'y en a plus de différence. Et puis pour moi, c'est très dangereux. Puis ça, c'est aussi derrière les discours sur la réconciliation. On se réconcilie, on efface les différences et tout ça. Mais ça, ça se fait toujours au détriment des conceptions inoues et de la philosophie inoue et de la vision inoue du monde. Parce que le système est structuré pour faire en sorte que si vous voulez continuer d'exister, ben, il faut abandonner ce qui est le plus sacré pour vous, et puis il faut s'anéantir pour pouvoir continuer d'exister. Il n'y a pas d'autre voie possible. Alors c'est pour ça que c'est extrêmement problématique. Mais d'avoir une critique de la culture québécoise et de sa représentation des Inuits et de leur souveraineté, ça me semblait inévitable. Et dans les récits que les gens ont fait de la guerre du saumon, malheureusement, il y a des récits de racisme qui sont liés avec le nationalisme et tout. Je sais que c'est pas populaire de parler de ça au Québec, mais je le fais pas avec plaisir, mais c'était nécessaire de le faire, de le dire, regardez, oui, il existe un racisme profond et qui remonte à loin. Et puis, comme il y en a un au Canada, comme il y en a un dans les institutions canadiennes qui ont été érigées par Johnny McDonald. Alors, oui, il y en a au Canada, mais il y en a aussi au Québec, et c'est nécessaire d'y regarder en face, au-delà des discours romantiques ou je dirais de la fragilité au Québec là, tu sais, par rapport aux critiques. Le fait que les gens se perçoivent comme étant des colonisés puis des oppressés et qu'ils en viennent à faire l'apologie un peu en disant que le colonialisme québécois est moins pire que le colonialisme soit britannique ou espagnol ou peu importe. Ce qui, de mon point de vue, est faux parce que le colonialisme est le colonialisme.
Juste une question qui est sur le site des presses de Chicago et qu'on a quand même déjà abordé pas mal, mais qu'il y aurait sûrement d'autres choses à ajouter là-dessus, que j'aime personnellement beaucoup. Okay, what is cultural oblivion and psychological colonialism, and how are they affecting the capacity of indigenous peoples in Canada to actively resist systematic and territorial oppression by the state?
Ben oui, oui. Ouais. C'est qu'à un moment donné, avec le temps, la production de l'oubli culturel au Canada a une fonction. Comme les écoles résidentielles en ont une, ça fait partie d'un projet plus général d'effacement et de remplacement d'une civilisation par une autre. Avec le temps, lorsqu'on a perdu, par exemple, la mémoire de notre lien avec la Terre, on peut en arriver à voir cette Terre-là comme étant monnayable. On va plus facilement abandonner ce qui est sacré pour nous si on a perdu le récit ou si on se rappelle pas de la valeur de cette Terre-là et de notre obligation envers cette Terre-là. Ce qui fait en sorte qu'on va se faire offrir des peanuts, comme dans le cas des traités modernes. On va nous donner l'illusion qu'on nous donne quelque chose quand, au fond, on arrache ce qui nous reste de souveraineté ancestrale dans toute son inhérence, dans tout ce lien-là, qui n'est pas commodifiable, qui n'est pas monnayable avec la Terre. Et c'est dans ce sens-là que la mémoire, la relation avec le passé, cette mémoire culturelle-là et son affaiblissement a un lien directement avec le consentement. Comment peut-on consentir réellement à renoncer à ce à quoi on n'a pas conscience que ça nous appartient ou qu'on n'a pas conscience de... Ça affecte le consentement. Parce que comme on parlait encore de l'image de l'abus, mais c'est un petit peu ça, tu sais. On en vient à croire que finalement, On n'a pas de souveraineté ancestrale. Puis c'est des choses qui n'existent pas vraiment. Alors, tout ce que le gouvernement va nous donner, ben, ça va nous paraître comme un plus, quelque chose qui nous apporte quand, au fond, tranquillement, on tous les derniers clous de notre cercueil, là, comme peuple. Et puis, on en arrive à imposer un système d'usurpation et puis de monnayage de la terre ou de projets de développement industriel ou pétrolier ou minier ou d'exploitation de la terre. Là. Alors, c'est pour ça que la conscience historique des premiers peuples a tout le temps été la menace numéro un à la stabilité du Canada, à la certitude des investissements, à la certitude des industries. Et la résistance, qui est liée justement avec cette conscience historique-là, a été l'ennemi numéro un. Et le système s'est érigé pour tuer toujours dans l'œuf cette résistance-là. Dans ce sens-là, la mémoire culturelle et les aspects psychologiques du colonialisme, c'est le genre de barbelés psychologiques qui font en sorte qu'on en vient à croire qu'on n'a plus d'histoire, on en vient à croire qu'on n'a plus de souveraineté ancestrale ou qu'on est nous-mêmes, on n'est pas vraiment des peuples ou on n'a pas vraiment de dignité. Ben, c'est vraiment dans l'intérêt de l'État colonial et des industries et des grandes corporations. Ça nous affaiblit collectivement. Notre capacité de résistance, notre capacité aussi de continuer cette vision du monde-là et de la transmettre. Et on peut croire que le système fonctionne très bien parce qu'il est toujours en place et qu'il a produit des effets, hein, qui font en sorte que le Canada continue à se développer, les projets vont de l'avant, mais il y a toujours des formes de résistance qui reviennent, évidemment, qui continuent. Puis c'est ça qui est une grande centrale, et ça va continuer à grandir, et une grande partie de la société civile se range derrière ces mouvements autochtones qui portent une conscience et une vision de la Terre puis de l'être humain, et puis c'est là qu'on est à un tournant.
Still looking for a holiday gift or two for the special people in you?
19. We must all continue to respect public health guidelines and follow self-isolation instructions. Self-isolate if you have symptoms. Self-isolate after testing. Self-isolate if the test is positive. Self-isolate when you return from a trip. And self-isolate when you've been in contact with someone who's tested positive. Self-isolation is important. Please, take it seriously. Learn more at quebec.ca/self-isolating. A message from the gouvernement du Québec.